Bien, nous allons faire une lecture dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nous vivons dans un temps difficile et on n'a encore rien vu. Ça va devenir de plus en plus difficile. Einstein, vous savez, le vieux monsieur avec les cheveux longs qui tire la langue, Einstein avait dit « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. » Eh bien, il est spirituel. Je vois que ce que le bon semeur, notre Père Céleste, a semé, ça vient à maturation. Et je vois aussi que ce que le mauvais semeur a semé, Satan, l'adversaire, ce qu'il a semé commence à véritablement être mûr aujourd'hui. C'est une époque très spirituelle. Mais quels sont les esprits qui agissent en majorité? Eh bien, ce ne sont pas des bons esprits. Selon Apocalypse 6, 7, 8, ce sont des esprits méchants, les esprits méchants des morts qui parcourent la terre en ce moment, qui cherchent à se réincarner, qui cherchent à ruiner la vie de ceux qui sont habitants de cette terre dans des corps mortels. Ils ont un pouvoir, celui de tuer. Ce pouvoir leur a été donné sur le quart de la terre. C'est énorme. Les incroyants ne nous croient pas. Les incroyants ne nous croient pas quand nous disons cela. Ils n'ont jamais cru les prophètes. Ils ne nous croient pas. Mais ça ne doit pas nous décourager. Nous devons continuer à dire ces choses. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on a mise dans de l'eau tiède, dans une casserole, puis on l'a mise sur le feu. Et puis, ça a chauffé petit à petit, et au bout d'un moment, elle se sentait bien. Hein, ça venait de plus en plus chaud, mais c'était tellement lent que finalement, elle ne s'est pas rendue compte, et elle est cuite. Et bien, la même grenouille, si vous l'aviez jetée dans de l'eau qui était déjà bouillante, elle aurait sauté dehors de la casserole en disant, mais c'est bouillant! Et bien, c'est ainsi que ça se passe dans ce monde. Les choses viennent petit à petit, on s'habitue, puis un jour, on est cuit. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons nous habituer à continuer avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne nous tue pas, elle nous fait vivre une vie différente, une autre vie, pas la vie que nous avions avant de connaître Dieu, une autre vie. Alors, il nous est dit là de prendre les armes. Et je vais vous parler des deux armes les plus importantes que nous avons. On en a beaucoup d'autres. Là, il nous a fait une liste. Mais ce n'est pas une liste qui est finie, il y a beaucoup d'autres armes encore. Mais je voudrais surtout vous parler de deux choses importantes. Premièrement, il faut que vous sachiez, des armes de parole. Le parler en langue est notre arme la plus efficace. Nous avons la responsabilité d'être des modèles, chacun d'entre nous. Nous avons à défendre notre foyer, nous avons à défendre notre famille, nous avons à défendre l'Église de Jésus-Christ. Et pour être un bon défenseur, eh bien, il nous faut être fort. Et pour être fort, eh bien, nous avons ce secret, ce don surnaturel, celui de parler en langue. Celui qui parle en langue, il s'édifie, se fortifie, se construit lui-même. Et après, il peut se présenter dehors avec quelque chose de fort, de spirituel. Je vous demanderai, quand vous rentrerez chez vous, pas seulement les jeunes, mais tous, essayez de faire, vous direz, oh, moi je ne sais pas faire. Essayez, vous dessinez un chevalier en pensant ce que c'est qu'un chevalier. Et prenez comme modèle le texte qu'on vient de lire là ce matin et imprégnez-vous de l'idée que ce chevalier c'est vous. C'est vous. Que vous avez à défendre quoi? Le royaume de Dieu ici-bas. Pas votre place sociale, non, non, le royaume de Dieu. Nous devons pouvoir résister dans les mauvais jours, mes frères et sœurs. Nous devons pouvoir tenir après avoir tout surmonté, tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a la résistance, il y a la défense, il y a tenir ferme. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez, je vous parle du parler en langue qui est une arme essentielle. Mais quand vous parlez votre langue à vous, celle que vous avez appris avec votre papa, votre maman, parlez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Étant fidèles à notre prêtrise, nous recevons de Dieu les armes nécessaires. C'est à nous de les prendre maintenant, ou pas. Il y en a qui ne prennent pas. Dieu leur donne, mais ils ne prennent pas. Et puis, alors, il y en a qui prennent, mais qui ne les utilisent pas. Prenons-les et utilisons-les. Faisons chaque jour des progrès dans le maniement des armes. Réfléchissez un peu. Les chevaliers, ils faisaient des tournois, mais avant de se présenter au tournoi, ils faisaient des exercices. Vous avez déjà vu des films de chevaliers? Évidemment, vous n'avez pas vu des vrais chevaliers, ça n'existe plus tellement, hein. Mais bon. Utilisez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comment l'utiliser? Ben, c'est d'abord être en accord avec ce qu'elle dit. Elle dit que Jésus est mon sauveur. Donc je dis, je suis sauvé. Les gens qui n'utilisent pas la parole de Dieu disent, ah non, moi je suis humble, je ne peux pas savoir si je suis sauvé, c'est Dieu qui décidera. La parole de Dieu dit que Jésus est notre sauveur, nous avons un sauveur, nous sommes sauvés, dites-le clairement, fièrement, devant toutes ces puissances de ténèbres. Dites, Jésus est mon maître, et je suis obéissant, et je m'efforce chaque jour d'aller un peu plus loin dans l'obéissance, il est mon protecteur. Je ne crains aucun mal, mais dites la parole de Dieu. Je ne crains aucun mal. C'est une parole de Dieu, vous devez dire les paroles de Dieu. Le mal peut surgir, c'est vrai, mais au sein de la souffrance, dans la tentation, dans la maladie ou même dans le deuil, je me comporte et je parle comme un fils de Dieu, pas comme un terrien là. Je ne dis pas « j'en peux plus ». Je parle la parole de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est différent. C'est pas de la pensée positive. La pensée positive New Age, c'est de la copie, de la mauvaise copie de ce que Dieu enseigne. C'est pas que c'est mal ce qu'ils disent, ce qu'ils font. C'est juste simplement de la copie. C'est du plagiat. Le mal m'atteint sous toutes sortes de formes, ça c'est vrai, la Bible dit, le mal atteint souvent le juste. Hein? Mais quand le mal m'atteint, il se cogne contre mon armure. Et surtout, il se cogne contre mes paroles inspirées par les Écritures, c'est-à-dire, il goûte de mon épée. Ma parole devient la parole de Dieu. Ma parole devient la parole de Dieu que Dieu prononce à nouveau ici-bas au travers d'un corps mortel comme autrefois avec Jésus. Jésus, c'était un homme dans un corps mortel, mais quand il parlait, c'était la parole de Dieu parce qu'il était la parole de Dieu. Et nous devons arrêter de penser que nous sommes des terriens. Nous sommes la parole de Dieu incarnée pour notre temps. Jésus prolonge ses jours au travers de nous. Connaissant la vérité, je dis avec Paul, même la mort m'est un gain. Alors, que peut me faire un mortel? Que peuvent me faire des esprits désincarnés? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes de puissances mauvaises. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, ces esprits désincarnés? Ils peuvent essayer de me cogner, mais quand ils me cognent, ils prennent des coups. Je dis qu'un enfant de Dieu est plus fort alors qu'il vit dans un corps que n'importe quel esprit qui n'a pas de corps. Nous sommes plus forts. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Et j'utilise la parole de Dieu comme une arme spirituelle. C'est spirituel. L'épée, la parole de Dieu est spirituelle. C'est une épée d'esprit qui sert à lutter contre des esprits. Et l'épée se manifeste ici-bas étant la parole. Nous parlons la parole de Dieu. Et quand nous ne savons plus quelle parole de Dieu utiliser comme arme contre un ennemi, on lui parle en langue dans la figure. D'accord? Ça, c'est magnifique. Quand nous ne savons plus comment faire, la Bible nous dit, eh bien, l'esprit au travers de vous pousse des soupirs inexprimables. Nous parlons en langue, la langue de l'esprit. Donc c'est toujours par la parole, c'est le plus fort. Bien sûr que le bouclier, c'est formidable, c'est très important. Bien sûr que les chaussures, c'est très important. Mais la parole, oh là là. Jésus, ici-bas, était la parole de Dieu. Et quand nous utilisons la parole de Dieu, nous prolongeons les jours de Jésus ici-bas. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 53. À cause du fait qu'il a été fidèle, il prolonge ses jours. En moi, en vous. Mes frères et sœurs, vos pères, vos grands-pères et grands-mères n'ont jamais eu à affronter les tentations que vous avez à affronter au quotidien. Nous vivons dans les derniers jours. Et si votre grand-père, par exemple, voulait avoir des ennuis, il devait aller les chercher. Aujourd'hui, c'est fini, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la tentation vous trouve, elle est partout, partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvenez-vous de ça, Satan cherche à vous avoir, il sait qu'il en a pour pas très longtemps. Il connaît pas exactement le plan de Dieu, mais quand même, il est pas bête, il sait bien qu'il en a pas pour longtemps. Et alors, le péché se couche à votre porte, mais même il rentre dans votre chambre, il est sur votre bureau, avec un écran qui clignote. Comment allez-vous résister à ces attaques agressives? Comment vous allez faire? Eh bien, revêtez complètement l'armure de Dieu. L'armure, c'est un revêtement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se battent en croyant utiliser l'armure de Dieu et ils se trompent. En fait, ils se battent eux-mêmes pour améliorer leur propre vie. Et ça, c'est pas le combat qu'on a à mener. Le combat d'un chrétien réel, d'un disciple réel, c'est le combat de Jésus pour des choses qui doivent demeurer éternellement. Et l'armure, c'est un revêtement divin. Mais vous ne pouvez pas revêtir votre chair avec ça. La chair ne combat que votre âme, que votre être. Elle ne combat pas les mauvais esprits. Votre âme, votre chair, elle combat votre âme. Elle vous combat vous. Elle est en guerre contre vous, c'est ce que je vous disais vendredi. Et vous voulez lui mettre l'armure de Dieu? C'est incompatible, c'est contre nature, c'est comme le mariage gay, ça marche pas. C'est pas juste selon l'ordre de Dieu. C'est contre nature. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur vie chrétienne. Par exemple, je dis, c'est juste un exemple, hein. Ils savent que Jésus a dit à ses disciples, « Demandez, vous recevrez. » Alors ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Ils sont étonnés. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur façon de demander. La demande n'est pas spirituelle. Elle a pour but de satisfaire leur chair. Écoutez, on va lire à Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, il faudrait savoir, on peut demander, quoi que ce soit que vous demandiez, je le ferai, il dit. Ah oui, mais toujours selon sa volonté. Pas pour satisfaire nos passions. Nous ne sommes pas appelés à satisfaire nos passions. Nous ne sommes pas appelés ici-bas à satisfaire ce qui nous passionne. Nous sommes appelés à donner notre vie, à renoncer à notre vie. Nous sommes appelés à inviter Jésus pour qu'il vive en nous. Il veut habiter nos corps mortels pour pouvoir continuer sa vie, son ministère, au travers de nous ici-bas, pour prolonger ses jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme Ésaïe l'a prophétisé, Ésaïe 53, 10, pour prolonger ses jours en nous. C'est Christ en nous qui doit revêtir l'armure de Dieu. Et pas votre chair. Paul considérait que c'était plus lui-même qui vivait, mais que c'était Christ qui vivait en lui. Et ce même Paul, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On dirait qu'il y a une contradiction là. Qui est ce vous quand il dit revêtez-vous? C'est le même moi que Galates 2, 20, quand il dit Christ vit en moi. Bien sûr que je suis toujours là. Mais c'est Christ, le maître, qui vit là. Et c'est ça qui doit être revêtu. C'est un être, c'est une âme qui est soumise à Jésus-Christ, le Maître. Nous sommes bien là. L'être que nous sommes est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. À cause de l'œuvre de la croix, c'est une chose réelle. Nous avons été mis à mort, nous sommes nés de nouveau. Et ce nouveau moi est vivant de par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Il nous a vivifiés. Il nous a remis en mouvement. Il a remis en mouvement notre être. J'écoutais ça, c'était frère Tarashenko qui prêchait ça. Un physicien. Une nouille, hein. En Adam, nous étions morts. Nous sommes nés morts. Et Jésus a donné sa vie, il a payé le prix pour faire plus que simplement nous pardonner, plus que simplement nous guérir, plus que simplement nous protéger, plus que simplement nous donner un bon boulot, plus que simplement... Par ses meurtrissures, tout ce qui nous concerne est remis en mouvement vivant. C'est exactement ce que signifie « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » de Ésaïe 53, 5. Si vous pouviez lire ça en hébreu, vous verriez que ce n'est pas 4-5 mots là. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». C'est une demi-page de la Bible, ce verset-là. Le mot, rien que le mot « guéri », c'est le mot « rapha » qui en hébreu signifie « remis en mouvement ». Mais pourquoi a-t-il remis en mouvement notre être? Pour quelle raison? Pour quel but? Pour pouvoir être en nous, pour pouvoir être unis à nous, pour que nous soyons un, pour que cette unité merveilleuse dans un corps puisse faire la volonté de Dieu sur terre, pour accomplir son œuvre sur terre, pour accomplir sa passion sur terre, pas pour nous donner tout ce que nous voulons. Une belle voiture, un bon boulot, une santé, et je sais pas moi, un compte en banque bien garni, et puis non. On me dira, bon. Mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces choses que vous demandez et qui vont périr un jour? Est-ce que vous allez servir Dieu avec ce boulot? Ou est-ce que vous allez servir Dieu avec cette santé? Est-ce que vous allez servir Dieu avec l'argent? Est-ce que vous allez servir Dieu? Ou est-ce que vous allez vous servir, vous? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir faible et pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La ruse du diable, les ruses du diable n'ont qu'un but, mes frères et sœurs. C'est vous faire tomber là où il est. Et là où il est, ça s'appelle le monde de l'égoïsme. Le diable veut tout pour sa propre satisfaction. Il veut que vous soyez la même chose que lui, pour que vous soyez une insulte à Dieu. D'abord, moi. Seigneur, si tu me donnes ça, je promets je ferai ça. Non, tu fais d'abord la volonté de Dieu, puis ensuite Dieu te donnera, s'il veut. Il n'est pas obligé, en plus. Mais il a promis, il a dit, si tu t'occupes premièrement des choses du royaume de Dieu, je te donnerai tout par-dessus. Mais même il n'est pas obligé de le faire. Mais je crois dans son amour. Amen. Mais c'est quoi ce chantage, cette espèce de d'abord moi, puis ensuite. Quand j'aurai réussi, je donnerai ma dîme. Quand j'aurai plus de problèmes. Ah ben, alors à ce moment, non, mais c'est quoi ce cirque? Bande de païens. C'est du paganisme. On prend Dieu, on le remet à notre image. C'est le contraire qui doit être fait. La chair résonne mal. La personne régénérée s'occupe d'abord du royaume de Dieu et de sa justice, c'est-à-dire ce qui est juste selon le royaume. Dieu prend soin de notre protection, c'est vrai. Il prend soin de notre abondance, de notre santé, de toutes choses. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. La chair, elle a ses exigences, c'est vrai, mais Dieu a les siennes et c'est d'abord les siennes qui passent. C'est en premier sa volonté. Quelles sont les exigences d'un véritable enfant de Dieu? Est-ce que c'est les exigences de sa chair? Mais ça peut être légitime. Qui, malade, ne prie pas pour être guéri? Qui, pauvre, ne prie pas pour être enrichi? Oui, mais pourquoi tu pries pour être guéri? Juste pour être bien, pour pouvoir aller siroter un petit rosé au bord de l'eau en pêchant des poissons? Tu dois être un pêcheur d'hommes. Notre chair, d'abord, elle passe à la croix. Avant de mourir, elle doit porter sa croix. Après, elle doit être crucifiée. Après, tu dois la laisser mourir. Tu ne dois pas crier au secours. Et puis après, tu dois la maintenir dans la mort. On va lire Colossiens 3, 3. Colossiens 3, 3. Hein, c'est pas rigolo ce matin, Michel. Tu nous engueules. Non, c'est pour votre bien. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ce que Paul enseignait. Alors, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es caché avec Dieu, en Dieu, avec Christ, caché en Dieu, c'est-à-dire ayant le revêtement? Le revêtement, celui de Dieu. Mais comment se fait-il que cela ne paraisse pas immédiatement à la conversion? Ça serait tellement mieux si quand on est né de nouveau, hop, ça y est, on a tout ce qu'il faut. Écoutez bien. À la conversion, vous venez à Jésus-Christ, vous vous repentez, vous décidez de le suivre, vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour sceller votre alliance avec Dieu, vous recevez l'Esprit Saint et vous êtes appelé à faire mourir ce qui dans vos membres est terrestre, Colossiens 3:5, et vous participez à la rédemption, c'est-à-dire au rachat, parce que vous avez été racheté, parce que vous êtes sauvé. Vous vous mettez au travail, vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment? En faisant mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas ça la vie dure, ces machins-là. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, puis la liste est longue, hein. Vous êtes habité par l'Esprit de Dieu et vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Colossiens 3:10. Vous n'êtes plus dans le règne animal charnel comme les terriens, comme les descendants de Adam. Vous n'êtes plus des êtres déchus. Vous êtes une nouvelle création et vous grandissez parce que c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance et vous êtes en train de grandir. Vous êtes un homme nouveau et la Bible dit qu'il se renouvelle dans la connaissance. C'est la connaissance qui fait que nous sommes renouvelés selon l'image de celui qui a créé cette image nouvelle. C'est ce que Paul enseigne, lisez. Et c'est un travail spirituel, pas charnel, pas égoïste, pas religieux. Le seul but, c'est la gloire de Dieu. Beaucoup trop de chrétiens font de la sanctification à l'huile de coude, disent c'est fort. Mais on n'a pas à F. Jésus dit que nous devons mourir, on ne doit pas. Ce n'est pas notre chair qui doit servir Dieu. Nos pensées charnelles qui doivent servir Dieu. On n'est pas chrétien pour satisfaire notre ego, on n'est pas chrétien pour satisfaire notre être intérieur. On est disciple de Jésus pour que ce soit lui qui vive par nous. Nous sommes une race de sacrificateurs quand nous faisons cela. Sacrifiant notre vie pour sa vie, pour ses buts. Et alors, à ce moment-là, sa vie devient notre vie, ses buts deviennent nos buts. C'est ça quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une jolie phrase, simplement comme ça pour faire joli, puis pour que la Bible soit un peu plus épaisse, on met cette phrase, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, youpla, zoup, zoup, zoup. Non! Ça veut dire, je suis vraiment mort, maintenant c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire que je m'occupe de ses buts, je m'occupe de ses passions, je m'occupe de sa volonté, je m'occupe de... Et c'est ainsi que nous sommes un avec lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous devons marcher par le Saint-Esprit, sinon nous marchons par la chair. Vous vous rappelez de ce théologien qui est venu ici et qu'on a aidé à avoir la sécu et tout ça, hein, pour qu'il puisse se faire opérer afin qu'il vive? Les médecins dans son pays lui avaient dit qu'il vivrait jusqu'en décembre 2012 et il est encore là. Gloire à Dieu, merci Seigneur de nous avoir utilisés pour ça. Mais comprenez pas que nous ne suivions pas l'évolution de la société actuelle. Mais les choses changent, disait-il. La société change, l'Église doit changer. Non monsieur, ça c'est charnel. Il y a environ 20 ans, mes frères et sœurs, les principes de ce monde étaient encore assez proches de ceux de l'Église de Jésus-Christ. On appelait ça la société judéo-chrétienne. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, le monde s'est considérablement écarté. Et ce que nous devons considérer, Est-ce que nous devons expliquer à nos enfants, c'est que la communauté de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, restera la même tandis que le monde continuera à changer. Il dit que c'est une évolution, c'est une dégénérescence, c'est une pourriture, ça finira dans le feu. Ils ne nous croient pas. Ben, ils verront bien. Le gouffre entre le monde et l'Église devient de plus en plus grand. Et c'est pourquoi nous devons être prudents. Si vous jugez vos actions par rapport aux normes actuelles et aux normes à venir, parce que ça va devenir de pire en pire, mais alors vous allez être complètement rassuré, vous allez dire « Oh, mais je ne suis pas vraiment un grand pécheur. » Vous n'avez pas à juger d'après les normes actuelles. C'est ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a créé tout ça. Et c'est d'après les lois de Dieu que ça marchait, pas d'après les lois qu'on se fabrique, nous. Il y a encore 15 ans, j'aurais jamais pensé que le monde irait aussi loin. Dans l'éloignement de la saine doctrine, des principes, des commandements de Dieu. Je n'aurais pas pensé qu'on irait si loin. Mais mes frères et sœurs, je sais une chose, ni Jésus, ni ses principes, ni sa véritable Église n'a changé. Comme a dit le Seigneur, la vérité demeure pour toujours et à jamais. Alors, sachant que Jésus ne change pas, eh bien, on est conforté, on est mieux armé, plus fort pour affronter la pression sociale, les moqueries. On était traité d'archaïque. Ben oui, ben si c'est... Alors bon, d'accord, si faire ce que la Bible dit, c'est être archaïque, ben alors je veux bien. Et il y aura même une discrimination qui viendra du monde et de certaines personnes qui se disent nos amis actuellement. Et puis ça va devenir grave, ils vont nous dénoncer, ils vont nous persécuter, mais vous allez voir, ça va être comme ça. Un véritable ami ne nous demande pas à nous de choisir entre l'Évangile et son amitié. Et pour citer Paul, je dirais, éloigne-toi de ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais on n'a pas à les suivre dans leur débordement. C'est à eux de nous suivre, pas à nous. Oui, nous marchons sur le chemin étroit. C'est normal qu'ils jugent qu'on est étroit, puisqu'on est sur un chemin étroit. Ben oui, je suis étroit. Nous savons que Jésus a raison. Notre combat, il est spirituel. C'est un combat contre des démons, contre des esprits de mort. Vous ne voulez pas le croire? Eh bien, vous verrez. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour voir. Entrons donc dans le combat de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre les homosexuels qui veulent se marier. Je trouve ridicule ces gens qui défilent pour aller dire « c'est pas bien », tout ça. C'est encore la chair. Ils pensent que voilà, il faut sauver le pays, mais on ne sauvera jamais le pays. C'est écrit que ça doit arriver. Alors laissons-les faire. Mais disons clairement que nous ne sommes pas d'accord. Notre combat, il se situe beaucoup plus haut que ça. C'est le combat contre les esprits qui luttent contre Dieu. C'est ça notre combat. Et je vous dis, on peut pas. La famille, c'est quelque chose qui fout le camp en morceaux. Mais pas les nôtres. Et nous avons à veiller sur nos familles, à prier pour nos familles, à enseigner nos enfants, à enseigner les gens de notre famille. Ben, ils font ce qu'ils veulent dans le monde, c'est leur truc. Mais pas nous. Nous, on obéit au Seigneur Jésus. Et bien sûr, on risque d'être blessé dans certains combats spirituels, et c'est pourquoi nous devons donc porter, non pas des armes humaines, mais des armes divines. On n'y va pas avec toutes nos forces, on y va avec les forces de Dieu. Et pour avoir les forces de Dieu, ben Jésus nous a montré l'exemple. Hein. Quand il parcourait la terre d'Israël, il guérissait les malades et une force sortait de lui. Voilà pourquoi les gens le suivaient, parce qu'une force sortait de lui. Puis après, le soir, il mangeait, il allait se coucher. Et le matin, avant que le soleil se lève, il allait prier, retrouver des forces pour recommencer une nouvelle journée. Et à chaque jour suffit sa peine. Ben voilà, ce qu'il faisait, nous devons le faire. C'est spirituel. Combien d'entre vous était au rendez-vous hier à 17h59 devant les portes de l'ennemi. Hein, ça c'est terrible, n'est-ce pas? C'est pas un amusement. Regardez autour de vous tous ceux qui nous ont entendus, qui ont souri, qui ont entendu ce que l'Esprit dit aujourd'hui, mais qui n'ont pas cru. Regardez-les aujourd'hui dans les tourments, dans des trucs invraisemblables, des croyances idiotes. Ils disent que c'est nous qui avons des croyances idiotes. Hey, vous voyez, on a des croyances idiotes. Il y a encore quelques années, dans les tribunaux, on jurait sur la Bible. Ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dans la Bible, mais ils juraient dessus. Nous, nous savons ce qu'il y a dedans. Nous savons quelle est la valeur. Et nous ne voulons pas abandonner ces valeurs. Mais nous ne pouvons pas si nous sommes charnels. Et notre chair, elle est là, mais elle, Jésus doit habiter en nous. Et c'est ce « nous » habité par Christ qui doit être revêtu. Ce n'est pas ce « nous » tout seul qui doit être revêtu. Si c'est vous tout seul qui êtes revêtu de l'arme de Dieu, mais vous allez faire que des bêtises avec. Vous allez être comme David quand il a eu l'armure de Saül, il s'écroulait, il disait « non, ça ne va pas ». Alors priez mes frères et sœurs, veillez et priez. Nous ne sommes pas encore arrivés au plus fort de la bataille. Ça va devenir de plus en plus grave. Ça va devenir si grave que Jésus va être obligé d'enlever son épouse parce qu'il ne va pas pouvoir supporter de la voir dans cet état-là. Alors veillez et priez. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Si vous êtes victime de quelque esprit mauvais qui vous a ruiné, qui vous a détruit, qui a détruit votre famille, qui a détruit vos joies, qui a détruit votre boulot, qui a détruit... Ce sont des esprits qui ont fait ça, ce n'est pas des gens. Luttez contre ces esprits. Chassez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'autorité pour le faire. Et quand vous le faites, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Hier, j'étais avec mon épouse, avec quelques frères dans notre chambre, et à 17h59, on était là, repoussant nos ennemis derrière leurs portes. Et j'avais les yeux fermés. Et quand je les ai rouverts, ben j'étais encore dans ma chambre. Mais c'était un combat spirituel, c'est des monstres spirituels, ce sont des entités, ce sont des puissances, ce sont des autorités, ce sont des... La Bible parle de tout ça. Ce sont des êtres réels, réels. Et on est Alors, on montre aux jeunes, il y a des jeux avec des super-héros hyper balèzes et tout, qui se battent contre des dragons et des machins comme ça. Mais ça, c'est juste une image rigolote, caricaturale de la réalité spirituelle qui a réellement, qui se passe vraiment là en ce moment. Et tous ces êtres visqueux et tous ces démons et ces esprits de mort sont là, ils se baladent là, dans votre ville, dans votre maison, ils rentrent. Et puis, j'avais lu un livre un jour, il disait qu'il y avait une chrétienne qui téléphonait une autre chrétienne, puis elle était en train de dire du mal d'une autre. Et puis il disait, et je voyais sur le petit guéridon un petit démon qui avait plongé son doigt dans le cerveau de celle qui parlait au téléphone et qui touillait, et qui touillait, et qui touillait. On ne les voit pas, mais ils sont là. Vous n'y croyez pas? Ils sont là quand même, ça ne change rien du tout. Et vos problèmes ne sont-ils pas là? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? La Bible dit, est-ce que ce n'est pas à cause des passions qui se déchaînent dans votre chair, de vos désirs charnels, de votre égoïsme, n'est-ce pas à cause de ça? Mais d'où c'est que ça vient cet égoïsme? D'où c'est que ça vient cette méchanceté? L'homme n'est pas comme ça quand on voit un enfant comme c'est mignon. Comment ça se fait que ça devient comme ça? Est-ce que c'est simplement la faute de la société? Non, c'est parce qu'on donne accès à des mauvais esprits. Vous ne voulez pas me croire? Eh ben tant pis, ça fait rien, continuez. Puis après, vous viendrez pleurer, puis je vous donnerai un petit conseil, puis vous repartirez en disant, youpla, ça va beaucoup mieux. Mais je me sens mieux, alors. Ouais, ça durera 3 jours. Et encore. Il faut que vous soyez spirituels. Il faut que vous soyez des gens spirituels, de prière, des gens qui veillent, des gens qui sacrifient leur vie pour faire non pas leur volonté, mais la volonté de Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, pour cette clarté. Je te prie, mon Dieu, de tout mon cœur, pour que les gens qui écoutent ça sur le net ou là par la télévision réalisent, et mes frères et sœurs aussi, que ce n'est pas une blague, que je n'ai pas atteint 63 ans pour venir dire des fadaises aux gens, de leur raconter des histoires du Moyen-Âge avec des dragons et des serpents anciens, que sais-je. Non, mais que je suis là pour leur parler de ce que toi, le Créateur du ciel et de la terre, tu as dit. Il y a des principautés, des autorités démoniaques et malfaisantes. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne luttons pas correctement, revêtus des armes de l'esprit, eh bien nous sommes voués à l'échec dans tout. Et que si nous nous occupons premièrement de ce combat spirituel, des choses du royaume et de sa justice, de ce qui est juste, alors tu prendras soin de tout le reste. Seigneur, nous voulons remettre toute notre vie entre tes mains, disant, Seigneur, si tu veux me guérir, merci. Si tu veux pas, bien la mort m'est un gain. Si tu veux m'enrichir, merci. Eh bien, si tu veux pas, ben c'est pas grave, je me satisferai de ce que j'ai, et puis voilà, gloire à Dieu. Si tu veux, quoi que ce soit que tu veuilles pour moi, je dis merci mon Dieu, mais en tout cas une chose, je veux vraiment me battre pour ton royaume, pour ta passion, pour ce que tu aimes. Je ne veux pas simplement dire « je t'aime, je me réjouis de te revoir », mais je veux déjà ici-bas prouver que je t'aime par ma façon de vivre une vie spirituelle. Je te le demande, Père, que chacun et chacune ait cette réaction ce matin suite à ce message et que chacun et chacune se dise « oui, je vais reprendre ma vie maintenant en main et les mettre dans les mains de Jésus ». Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.